La première artiste, c'est Catherine Somstey, metteur en scène de la compagnie Médiane. Et c'est une compagnie qui est un petit peu rare en région parisienne, malheureusement. Elle tourne de temps en temps, mais ces dernières années, peut-être on a plus vu ton travail dans ta région. Moi, j'ai découvert que tu étais scientifique de formation en regardant ton CV de très près et comédienne à la fois. Le travail que tu mènes est depuis environ 25 années, est un travail de recherche et l'objet est vraiment au cœur de tes recherches. Et c'est un objet dont tu signales qu'il est devenu au fil des années de plus en plus abstrait, jusqu'à t'intéresser par exemple au vent tout dernièrement et à la pluie aussi. C'est un spectacle que j'ai pu voir en 2009. Moi, j'ai relevé une phrase qui m'a beaucoup touchée dans ton CV, dans la présentation de ta compagnie. C'est une sorte de témoignage, finalement. C'est l'objet est plein d'humains. Donc, j'imagine que tu vas nous en parler. Donc, une dizaine de minutes, la règle du jeu, pour qu'on puisse communiquer avec la salle. Et il y a beaucoup de compagnies, mais pas seulement. Voilà. Donc, je crois qu'il y a un échange assez riche qui va se faire. Je te passe la parole, chère Catherine.
J'ai 10 minutes. Ça vous embête pas si je me mets un peu au-dessus, je vous vois pas sinon. Voilà, comme ça c'est bien. Alors, il se trouve que effectivement, j'ai un petit peu voyagé avec la matière en partant des objets. Alors, pour un petit peu résumer mon parcours, il y a un certain nombre d'années de ça, j'ai commencé à travailler. Je me suis formée comme marionnettiste à Gaines. Parce que pour moi, la Gaines, c'était quand même ce qu'il y avait de plus près de la matière. On a les mains dedans. Et quand on a décroché de la marionnette à Gaines, elle n'est plus en train de vous regarder depuis le mur avec des fils comme ça. Moi, ça me terrorisait. Donc j'ai appris la marionnette à Gaines, mais parce que je voulais manipuler des objets. Et les premiers objets que j'ai manipulés, j'ai d'abord évacué tout ce qui était figuratif pour ne garder que ce qui pouvait entourer éventuellement des personnages. Et j'ai fait un spectacle à l'époque qui s'appelait Inter-Exter, je ne le joue plus, et qui était de la manipulation d'objets miniatures dans une cage d'oiseaux en suspension. Tout le monde a suivi. Ça consistait à faire du montage et du démontage de décors et donc à suivre un personnage parce qu'il entourait. C'était ce que moi j'appellerais de l'hyperréalisme. Parce que finalement, je ne mettais pas un téléphone en scène, je mettais le téléphone en scène dans le sens où il était tout petit, qu'il était dans le creux de la main et que quand on ouvrait la main, le téléphone sonnait. Donc vous pouvez imaginer toutes les conversations téléphoniques qu'il y avait derrière. Et puis je me suis colletée enfin, à la matière, mais vraiment la matière. Alors quand on parle de matière, il faut savoir que des fois ça vous joue des tours. J'étais allée dans le désert, j'avais été absolument fascinée par le désert. C'était absolument magnifique, la terre à nu, tout très bien. Je suis rentrée, on va faire un spectacle avec du sable. Alors, la densité du sable, c'est 1,5. C'est-à-dire que c'est plus lourd que l'eau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous prenez 1 kg de sable, ça pèse 1,5 kg. Et évidemment, je ne voulais pas faire du faux. Hein, on ne va pas commencer à blaxonner du sable avec de la colle à bois. Non, on va faire ça avec du sable. Alors, j'ai travaillé dans une sablière. Il y avait une pelleteuse là qui m'avait amené du sable, tout ce que je voulais. Et j'ai travaillé avec 11 mètres cubes, c'est-à-dire 15 tonnes. Donc, pour ceux qui font du spectacle, vous savez que quand on fait un filage, il faut tout remettre en place. Et donc, remettre en place quand on travaille avec de la matière qui s'appelle du sable, ça veut dire pelleter une tonne de sable. Et ça, c'est le minimum. Ça a pris beaucoup de temps. Et en plus, moi j'avais vu du sable dans le désert. C'est magnifique, ça coule. On voit toutes les traces d'animaux qui s'impriment. C'est absolument magnifique. Vous revenez ici. Vous avez une idée de sable fin, magnifique, des couleurs et tout. Mais ça m'a pris un temps pour m'apercevoir qu'on était en pays tempéré. Que c'était pas du tout la peine d'essayer de faire des petites traces de bestioles dans le sable. Ici, il faut le mouiller, le sable. D'abord, il est toujours mouillé, le sable. En dessous de 10 cm, il est mouillé. C'est même pas la peine d'essayer d'avoir 2 cm de sec. En plus, où est-ce que vous avez joué s'il n'y a plus la veille? Vous allez sécher votre 15 tonnes de sable? Non, mais c'est vrai, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de matière. En plus de ça, je m'étais fourré dans la tête que j'allais faire l'évolution d'une humanité formidable. Oui, au début, on va commencer avec le feu. Vous avez déjà essayé de mettre du feu avec du sable ? Vous mettez une bougie, 3 grains de sable, votre feu, il n'y en a plus du tout. Bon, il faut trouver des solutions. J'ai finalement mélangé de la pâte à feu avec du sable et ça faisait vraiment des flammes magnifiques. Sauf que la première fois qu'on a joué, c'était sur la plage de Marseille, une plage de galets. Il a fallu amener 1 camion de sable. Non, c'est pas suffisant. 2 camions de sable. Et il est creux, le tas de sable. Hein. Il fait 3 mètres de haut, 3,50 mètres de haut. Mais il est creux parce que sinon, c'est pas 15 tonnes qu'il vous faut. Non, mais voilà, c'est concret. Et en plus, le jour de la deuxième, il y avait un mistral à décorner les bœufs. Là, le sable, il se mettait à sécher et à s'envoler. Et ouais, et c'était Philippe Poulquier à l'époque. Je lui ai dit, écoute, je ne joue que si le feu reste allumé. Et donc on a essayé au Mistral, et ça s'est éteint, donc on a joué que le lendemain. Et figurez-vous que j'avais aussi mis une idée dans ma tête absolument débile. Franchement, maintenant je peux le dire, mais à l'époque j'y tenais. Voilà, je voulais finir le spectacle en faisant décoller le tas de sable. Je vous assure, c'est vraiment des idées qu'on a des fois. Et je me disais, si par exemple la base du tas de sable se libère et que la lumière passe, ça va faire décoller le tas de sable. Bon, je vous rassure, j'ai jamais réussi à faire décoller. Par contre, plusieurs années plus tard, je me suis colletée au vent. Et là, j'ai eu ce genre d'idée aussi que vous donne le vent. Le vent, c'est-à-dire la matière vous donne des idées, ben bien sûr. Alors le vent, c'est entre le ciel et la terre, d'un continent à l'autre. Très très bien, oui. Et puis il y a une grande tradition de cerf-volant en Asie. Oui, allons en Asie, d'accord. Bon, on est allé en Asie, mais on a eu l'idée en 1 minute, il a bien fallu une bonne année pour réussir à aller en Asie. Par contre, on a fait effectivement des rencontres magnifiques, parce que c'est vrai que le vent salit les choses, c'est vrai que faire un spectacle pour percussion, cœur et cerf-volant, et manœuvrer avec 150 personnes qui n'ont pas votre langue, il y enfourmue du vent. Et je continue, parce que une fois qu'on a été au vent, qu'est-ce qu'il y a après, quoi ? Alors j'ai continué, et puis en plus de ça, on est quand même dans un monde de plus en plus, comment dit-on, virtuel. Et donc là, dans 10 jours exactement, je joue la première d'un spectacle où je me suis attaquée au monde virtuel. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais je peux vous dire que ça m'a pris 2 bonnes années, voire plus. Parce que à partir du moment où on a révélé le vent avec des cerfs-volants et où on se dit maintenant, où est-ce que je peux encore aller ? Je peux encore aller plus loin, je peux aller dans l'image vidéo. Bon, on en a vu des tas, des spectacles image vidéo, et tout le monde essaye la vidéo. Alors évidemment, moi aussi j'ai voulu essayer. Alors là, c'est très léger, c'est sûr, une image, vous l'emmenez avec vous dans cette boîte-là. Mais alors, quand vous voulez commencer à lui faire faire ce que vous imaginez qu'elle peut faire, ça devient un petit peu, comment dire, un peu complexe. Alors, l'idée, c'est de faire du 3D sans les lunettes. Et donc, on met le public dans les écrans, on les manipule, et on projette les choses dans les écrans comme tout le monde. Sauf que là, on a pris, enfin je dis sauf, j'ai pas le recul pour vous en parler comme le tas de sable. Si je viendrai dans 2, 3, 4 ans, vous vous en parlez plus. Mais là, pour le moment, ce que je peux vous dire, c'est sur quoi on est tombé comme chose à régler. L'idée, c'est vraiment de créer des ambiances. On est parti d'une idée simple pour ce qui est de la forme. On s'est dit, si le jour de ses noces, une mariée pouvait voir dans son voile tout ce qu'elle espère et tout ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on aurait ? Mon voisin, il ne se marie pas. Mais Mais en tout cas, nous, on s'est dit, voilà, qu'est-ce qui fait rêver, qu'est-ce qui se passe effectivement, qu'est-ce qui fait les familles, qu'est-ce qui fait tout ça. Ça, c'est un thème assez vaste pour pouvoir développer des tas d'images, parce que du coup, on peut projeter aussi tout ce qu'on a dans sa tête. Alors pour ça, on a mis 5 vidéoprojecteurs. Il y en a 2 de chaque côté du public, un devant et 2 en rétroprojection. Et on utilise, alors je vous le conseille, il s'appelle Max, le logiciel. Et alors Max, je vous le conseille, il ne fait jamais ce que vous voulez qu'il vous fassiez. On a coupé l'image en 3 pour projeter sur les 3 vidéoprojecteurs, mais on a à disposition 5 images en même temps qu'on peut placer là où on veut. Ce qui donne des choses assez spéciales, c'est-à-dire que le vidéoprojecteur qui est ici projette à court, le vidéoprojecteur de court projette à jardin, le rétroprojecteur de derrière projette dans l'autre sens, et alors quand en plus vous avez des écrans dans tous les sens, à la fin vous ne savez plus du tout d'où vient l'image. Parce qu'il y a les 3 dimensions, il y a X, Y et Z, jusque là tout le monde suit, mais en vidéo il y a en plus le premier layer, ils appellent ça des layers chez nous, le deuxième, le troisième, c'est-à-dire qu'en plus quand vous avez une image qui déroule devant une autre, parce qu'on peut comme ça faire coulisser les images, hein, les faire passer derrière, tout ça, et vous faites le tableau suivant, crac, vous enlevez cette image-là, il ne reste plus que son fantôme noir qui vous empêche de voir l'image de derrière. Tout le monde suit ? C'est très compliqué, mais on arrive petit à petit à mettre en place des choses. En tout cas, là, je voudrais bien plutôt passer à autre chose qui est la place du comédien ou du manipulateur ou du marionnettiste quand on travaille avec la matière. Que ce soit la matière marionnette, que ce soit la matière sable, la matière peinture, la matière. Comment on peut placer le personnage dedans ? Alors là, moi, je ne peux pas vous dire comment font les autres, je peux juste vous dire comment moi j'ai fait. Quand je jouais avec les petits objets, vous savez, le téléphone rouge. À l'époque, j'étais persuadée qu'on ne me voyait pas. Ça réglait le problème. Sauf que les choses étaient tellement précises à faire, parce que à cette époque-là, j'avais juste un magnétophone, donc il fallait que je mette on au début et off à la fin. Et j'avais 45 minutes de musique qui se déroulait, ou de bruitage, qui devait être absolument synchro. C'est-à-dire que quand on ouvre la main, le téléphone, il sonne. Et c'est à la 23e minute 52, pas à une autre. Et donc, il me fallait une concentration tellement grande que c'était ça mon jeu, je pense, à cette époque-là. Il fallait que je sois concentrée. Bon. Mais je n'avais pas placé du tout mon personnage comme un personnage ou comme un comédien, ou comme pas du tout. Moi, j'avais pris la marionnette comme base, et pour moi, c'était les pieds sur terre, les mains dans la gaine et la tête dans le public. Voilà, ça c'était clair. Après, la place du personnage est quelque chose qu'on apprend et qu'on modèle au fur et à mesure de ce qu'on utilise. Alors là, je vais vous parler d'un spectacle qui s'appelle Ivy Savi. C'est le spectacle avant la vidéo. Là, on a pris 2 rétroprojecteurs. On en a mis un d'un côté de l'écran et un de l'autre côté de l'écran. Et on a fait percer un personnage, quand il est d'un côté de l'écran, les autres le voient en ombre, et quand il est de l'autre côté, les premiers qui le voyaient en réalité le voient en ombre. D'accord ? Et c'est un système très classique, je dirais, d'entrée et sortie de scène clownesque. Parce qu'un clown, quand même, ce qui est bien chez le clown, c'est qu'il rentre en scène et il sort de scène. Tout ce qui se passe sur la scène, déjà, voilà. Donc en fait, je dirais que en travaillant avec la matière, je ne suis pas du tout partie du personnage, mais je suis vraiment partie de la matière projetée sur l'écran. Parce que c'est projeté en direct, c'est-à-dire que le personnage réagit en fonction de ce qui lui arrive, en direct. Et là, je me suis aperçue que je suis rentrée dans ce personnage-là, non pas par le réel, mais par l'ombre. J'ai d'abord commencé à réussir à jouer en ombre. Mais là, c'est vraiment très personnel, hein. C'est-à-dire qu'il m'a fallu au moins 20 ans avant de commencer à jouer quelque chose, hein. Et je vais conclure sur la façon dont ça joue maintenant avec la vidéo. Alors là, c'est pareil, j'ai du mal de vous dire parce que personne l'a encore vu, moi non plus évidemment. Et là, la matière vidéo est quand même déterminante dans le sens où quand vous êtes sur scène, que vous avez de la lumière, je dirais que c'est très physique la lumière par rapport à une vidéo. La lumière, il suffit qu'il y ait un spot qui s'allume ou qui ne s'allume pas au bon moment dans votre dos, vous le sentez très très bien. Vous savez où vous êtes. Vous avez vraiment le quand vous êtes sur scène, vous avez vraiment la perception de l'espace. Avec la vidéo, je sens que ça va mettre beaucoup plus de temps. Il y a de la vidéo, mais on ne la sent pas. C'est assez étonnant. Je vous en parlerai dans quelques années. Comment on joue avec de la vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est que pour réussir à être dans l'écran, et un écran vidéo, et tout le monde sait bien comment est-ce qu'une image filmée est extrêmement présente par rapport à un comédien. Et donc, pour être dedans, d'abord, quand vous projetez du faisceau de la lumière, vous avez en général pas d'image avant les genoux. Donc moi, j'ai réglé le problème, j'ai mis des échasses. Bon, pas que pour ça, c'est parce qu'aussi ça vous donne une allure un peu animale. Mais enfin, à la base, c'était ça. C'est-à-dire que si on se laisse guider par la matière, on a tout ce qu'on doit avoir pour un spectacle. Et la dernière chose que je voulais vous dire... Eh bien, je vais le... Voilà, oui, parce que là, je ne me souviens pas. J'ai encore plein de choses à vous dire, mais ce sera pour une autre fois.